Il est 22h, vous êtes sur Europe 1.
Ça fait très bizarre parce que c'est un département très reculé. Franchement, je me suis dit, on est loin, c'est un petit peu vers Paris là-bas. Et au final, ça me touche à nous bien plus qu'on ne le pensait, ouais.
Dans tout juste 2 heures, le couvre-feu va s'imposer à 38 départements supplémentaires, dont l'Ariège. Même à la campagne, le Covid prend ses aises. Plus 1 million de cas en France, 300 morts ces dernières 24 heures, certains hôpitaux au bord de l'implosion et pour la première fois depuis le printemps, des patients ont été transférés dans d'autres régions. Nouveau conseil de défense consacré à la lutte contre l'islam radical, le gouvernement veut renforcer sa loi sur le séparatisme. Une semaine après l'attaque de Conflans-Sainte-Honorine, les imams de France rendent hommage dans leur prêche au professeur Samuel Paty. Reportage à suivre. Dans ce journal également, le droit à l'avortement pratiquement réduit à néant en Pologne. Et puis le foot, le Stade Rennais affronte depuis 1 heure le SCO d'Angers. Stéphane Beignet.
Ça va reprendre un partout pour l'instant entre les deux formations. Ounou 18e pour Rennes, Da Silva contre son camp à la 27e.
A tout de suite Stéphane. Le temps de demain, très classique, gris et pluvieux au nord, ensoleillé au sud, nous dira Anissa Haddadi. La Bourse de Paris a clôturé sa semaine en hausse, plus 1,20% à 4909 points. À tous les détails à venir avec Claire Lemaître de boursier.com. L'interview éco dans 20 minutes. Gap a annoncé cette semaine quitter l'Europe. Les marques d'habillement tombent les unes après les autres. Pourquoi ? Emmanuel Duteil posera la question à Yves Marin, spécialiste de la distribution. Enfin, on découvrira ensemble les unes de vos journaux de demain.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le bruit des verres qui s'entrechoquent, un serveur qui s'active entre les tables, les sursauts des spectateurs au cinéma. Autant de scènes nocturnes qui vivent leurs dernières heures dans un tiers du pays. À minuit pétante, le couvre-feu entrera donc en vigueur dans 38 départements supplémentaires. Mesure qui, jusqu'ici, ne concernait que les grandes agglomérations. Et bien désormais, ce sera extinction des feux, même dans des villages comme à Saverdin en Ariège, où les habitants ne comprennent pas très bien ce qui leur arrive. Benjamin Péter.
Oui, parce que l'Ariège a été plutôt épargné jusqu'à présent, notamment ce printemps, et que désormais tous entendent parler autour d'eux de malades. Au Shiva, le centre hospitalier, 8 lits sur 12 de réanimation sont désormais occupés par des patients Covid, et le taux d'incidence a dépassé les 270 dans le département, de quoi inquiéter Jonathan.
C'est tout nouveau pour nous, ouais. Ça fait très bizarre parce que c'est un département très reculé. Franchement, je me suis dit, on est loin, c'est un petit peu vers Paris là-bas, et au final, ça me touche à nous bien plus qu'on ne le pensait. Ouais. Pourtant, on se lave les mains, on met le masque et tout, mais au final, ça suffit pas.
Alors lui a annulé sa soirée qui était prévue samedi. Au Bistrot des Arts, Sandra va également baisser le rideau pour les 6 prochaines semaines dès ce soir minuit. Mais elle s'attend à ce que ses clients aillent faire la fête dans le département voisin.
À 10 km de Saverdun, à Bellepêche, il n'y a pas de couvre-feu. Nous avons des jeunes qui auraient fréquenté ce bar avec des règles sanitaires précises, vont dès demain aller à Carcassonne faire la fête. À 40 dans un appartement ou à 30, parce qu'il n'y a pas de couvre-feu dans l'Aude. Pour moi, ça n'a pas de sens.
Et comme elle, beaucoup auraient trouvé plus cohérent un couvre-feu national, voire un reconfinement pour éviter ces comportements et se débarrasser définitivement du virus.
Benjamin Péter, correspondant d'Europe 1 en Occitanie. L'extension de ce couvre-feu vise à soulager nos hôpitaux débordés par l'afflux de nouveaux patients. La France a officiellement dépassé ce soir le 1 million de cas depuis le début de l'épidémie. 298 personnes sont décédées ces dernières 24 heures, soit près du double que la veille. En Auvergne-Rhône-Alpes, près des 2/3 des lits de réanimation, sont occupés par des patients Covid et la situation y est tellement critique qu'elle donne des airs de déjà-vu. Pour la première fois depuis le printemps, 8 patients ont été transférés dans des zones moins touchées, en l'occurrence la région Nouvelle-Aquitaine, Stéphane Place.
Oui, des transferts opérés en fait cet après-midi en avion sanitaire avec l'appui des SAMU de la Loire et du Rhône, puisque ces patients arrivent de Lyon, Saint-Étienne et Villeurbanne pour être soignés ici en Nouvelle-Aquitaine, au CHU de Poitiers, à l'hôpital de Brive et au CHU de Bordeaux où le docteur Catherine Fleurot, anesthésiste réanimateur, préside la commission médicale d'établissement.
Ce sont des patients qui sont intubés, ventilés sur des respirateurs. On a encore un petit peu de marge de manœuvre sur Bordeaux, en tout cas sur le CHU de Bordeaux, parce que c'est vrai qu'on a été jusqu'à présent impacté, mais de façon bien moins importante que ça n'a pu l'être dans les autres CHU. Donc on a un peu de marge de manœuvre pour accepter ces patients. Pas énorme, bien évidemment, parce que comme sur tous les CHU de France actuellement, c'est la période des infections saisonnières, la grippe, mais pas que, et donc c'est dans une période assez compliquée. Mais c'est vrai qu'on a avait un peu de marge de manœuvre, contrairement à certains autres CHU.
Alors, marge de manœuvre limitée aussi par les hospitalisations qui avaient été, souvenez-vous, décalées au printemps dernier, qui ne peuvent plus attendre désormais avec des interventions, des soins que le CHU, ici comme ailleurs, doit réaliser cet automne.
Et Stéphane Place à Bordeaux pour Europe 1. Et des services hospitaliers, justement, Emmanuel Macron en a visité cet après-midi à Pontoise. Et pour la première fois, le chef de l'État n'a pas exclu le recours à des reconfinements locaux. Écoutez.
Au moins jusque début décembre, nous aurons tout ce qui a été annoncé par le gouvernement. Et ces mesures, de manière certaine, je peux vous le dire aujourd'hui, n'ont pas vocation à être réduites, mais elles seront peut-être renforcées si elles ne sont pas suffisamment efficaces. Et on va essayer de le faire de la manière la plus ciblée. Et donc, il est trop tôt aujourd'hui pour dire si on va vers des reconfinements locaux plus larges. On va essayer à chaque fois d'aller, en quelque sorte, réduire les lieux, les moments où on a identifié que le virus circulait beaucoup.
Emmanuel Macron, sa sortie de l'hôpital de Pontoise, dans le Val d'Oise. Si la situation sanitaire s'aggrave de jour en jour, le dépistage, en revanche, a fait de gros progrès. Fini les résultats qui prennent plusieurs jours, voire une semaine à arriver. La moitié des tests sont désormais rendus dans les 24 heures et en moins de 48 heures dans 90% des cas. C'est ce que révèle une étude du service statistique du ministère de la Santé. Une fin de non-recevoir polie, mais ferme, l'agence du médicament a refusé au professeur Didier Raoult l'utilisation plus étendue de l'hydroxychloroquine pour traiter le Covid-19. L'ANSM estime que les données disponibles sont très hétérogènes et qu'elles ne permettent pas de présager d'un bénéfice de cette molécule pour le traitement ou la prévention du virus.
Europe Soir, le 22-22-30, Julien Pierce.
Une semaine, jour pour jour après l'assassinat de Samuel Paty, un nouveau conseil de défense s'est tenu ce midi à l'Elysée, conseil de défense sécuritaire à l'issue duquel le Premier ministre a annoncé ajouter des dispositions au projet de loi contre les séparatismes, Adrien Beck.
Des mesures en fait directement inspirées de l'attentat contre Samuel Paty et surtout en fait des jours qui ont précédé cet attentat. Jean Castex annonce par exemple la pénalisation de ceux qui feront pression contre des fonctionnaires et agents publics, comme ça a été le cas de certains parents d'élèves du collège du Bois d'Aulne. Et puis la deuxième mesure annoncée par le Premier ministre, la voici.
La possibilité de sanctionner ceux qui mettent en ligne des informations personnelles mettant en danger la vie d'autrui, comme par exemple un professeur.
Voilà, alors pour l'instant, on le comprend, ces mesures sont encore un peu imprécises, encore en construction. On ne s'en cache d'ailleurs pas au sein du gouvernement, mais il va falloir aller vite puisque le texte doit être présenté en Conseil des ministres le 9 décembre. Le Conseil de défense, en tout cas ce matin, a fait office pendant 2h30 de lieu de débat de toutes ces propositions. Elles ont été challengées, me dit un conseiller. Pour preuve, le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, est même venu ce matin autour de la table avec son code pénal.
Adrien Beck du service politique de Europe 1. J'ajoute que le Premier ministre a donné un bilan des actions menées depuis l'attentat de Conflans-Sainte-Honorine. 56 visites domiciliaires ont été effectuées sur les 123 décidées. Par ailleurs, 27 personnes ont été interpellées suite à des signalements en ligne sur la plateforme Pharos. L'une d'entre elles a été condamnée aujourd'hui à 4 mois de prison avec sursis pour apologie du terrorisme. Cette étudiante de 19 ans avait écrit sur Facebook que Samuel Paty méritait de mourir. Si le gouvernement souhaite renforcer son arsenal pour lutter contre l'islam radical, les musulmans, eux, ont fait de ce jour de prière un jour d'hommage au professeur assassiné. Le recteur de la mosquée de Paris avait demandé aux imams de France de consacrer leur prêche à la dénonciation du terrorisme islamiste. Message reçu et entendu à la mosquée de Montfermeil en Seine-Saint-Denis. Reportage Caroline Baudry.
Installés sur leur tapis de prière, 250 fidèles sont réunis pour le prêche comme chaque vendredi. Mais aujourd'hui, il y a ces mots de l'imam. Il condamne avec la plus grande fermeté l'assassinat du professeur vendredi dernier.
Aucune religion ne saurait accepter une action aussi abominable. L'islam se désavoue de ces fanatiques barbares et assassins.
Face à lui, l'Assemblée est très émue. Comme Karim, il est venu avec son fils et il tenait vraiment à exprimer sa peine aujourd'hui.
Les musulmans, nous sommes doublement meurtris. On perd une personne de notre famille. Cet acte-là a soi-disant été fait en notre nom. Je voudrais dire à la France entière et à tous ceux qui écoutent que nous y sommes pour rien, que nous regrettons cet acte. Nous sommes là en paix, l'islam veut dire paix. Et nous nous battrons et nous lutterons à vos côtés et Ensemble, nous y arriverons.
Ici, les prêches se sont succédés dans l'après-midi avec, à chaque fois, ce message en hommage à Samuel Paty.
Le reportage pour Europe 1 de Caroline Baudry. Nokia France renonce à près de 250 suppressions d'emplois sur les 1233 annoncées au mois de juin. Une avancée significative s'est réjoui aujourd'hui le ministre de l'économie, Bruno Le Maire. On est encore très loin du compte, tant perd de son côté la CGT. Les députés ont voté aujourd'hui à la quasi-unanimité le doublement du congé paternité. Il passera de 14 à 28 jours, dont 7 obligatoires pour une entrée en vigueur prévue au 1er juillet prochain. Il n'est pas sûr que la proposition de loi visant à allonger le délai légal pour avorter aille au bout. Déclaration aujourd'hui d'Olivier Véran à l'Assemblée nationale. Au début du mois, les députés avaient voté en première lecture un texte pour faire passer le délai légal de l'IVG de 12 à 14 semaines. Un débat sensible et prématuré, avait jugé alors le ministre de la Santé. Et d'IVG, il en est aussi question en Pologne. Avorter y est devenu quasi impossible depuis hier, depuis une décision du tribunal constitutionnel qui estime qu'interrompre une grossesse pour malformation du fœtus est illégal. Or, Hélène Terzian, cela représente 98% des IVG en Pologne.
Oui, désormais, il ne sera possible d'avorter que dans deux cas, en cas de viol, d'inceste, ou bien si la grossesse présente un risque pour la santé de la mère. En Pologne, lorsque les avortements étaient autorisés en cas de malformation du fœtus, les IVG légales étaient déjà extrêmement rares. L'an dernier, il n'y en a eu qu'un peu plus de 1000 recensés dans le pays. En revanche, le nombre d'avortements clandestins est lui très important. Près de 200 000 sont pratiqués chaque année. Une femme qui veut avorter le fera de toute façon, selon la directrice du planning familial en Pologne. Cette restriction met encore plus en danger les femmes, selon Christina Katspura.
Les conditions sanitaires dans lesquelles elles vont avorter dépendent de leur portefeuille. Si elles ont de l'argent, elles peuvent aller à l'étranger et avorter en sécurité. Mais sinon, elles le feront dans des conditions dangereuses. Et on a peur pour la santé et surtout pour la vie de ces femmes en Pologne.
Et dès hier, des groupes de femmes sont descendues dans la rue un peu partout dans le pays pour protester contre cette mesure. Certaines se sont fait arrêter. Dans une Pologne très catholique, les derniers sondages montraient qu'il n'y avait que 10% des habitants favorables à une nouvelle restriction du droit à l'avortement.
Merci Hélène Terzian. Et d'ailleurs, des milliers de Polonaises et Polonais manifestent en ce moment dans de nombreuses villes pour protester contre cette quasi-interdiction de l'avortement. Aux États-Unis, plus de 50 millions d'Américains ont déjà voté pour l'élection présidentielle, selon le dernier comptage, un record dû à l'épidémie. De nombreux électeurs préférant glisser leur bulletin en avance dans l'urne ou par correspondance pour éviter les foules le jour de l'élection, le 3 novembre prochain. On termine avec le foot et ce match avancé de la 8e journée de Ligue 1. Le Stade Rennais affronte en ce moment le SCO d'Angers dans un Roazhon Park où il y a quelque peu d'ambiance pour la dernière fois avant de longues semaines, Stéphane Meignier.
Oui, effectivement, Julien, parce qu'à minuit, Rennes et le département de l'Ille-et-Vilaine entrera vraiment en période de couvre-feu. Donc les 5000 personnes ce soir, c'est un peu bonus au Roazhon Park, car il faudra suivre soit à huis clos, soit 1000 personnes. Maxi, ça donnera évidemment moins d'ambiance. En tout cas, sur le terrain, pour l'instant, un but partout entre les deux formations. La domination est rennaise. Attention ! Et le deuxième but à l'instant de la formation angevine qui était menée au score dès la 18e minute par Ounou. L'égalisation par Da Silva contre son camp. Et là, à l'instant, je crois que c'est Boufal qui vient de marquer ce deuxième but pour Angesco qui mène sur la pelouse du Stade Rennais Football Club. Deuxième ex-aequo ce soir au classement. Ce serait peut-être sa première défaite depuis le début de la saison.
Merci Stéphane Beignet en direct du Roazhon Park à Rennes pour Europe 1. On reviendra vers vous d'ici la fin de cette édition. La météo, Anissa Haddadi, il fera plus gris demain au nord.
Ah oui, ça va pas être une très belle journée, effectivement. Demain, de la Gironde aux Ardennes, sur les Pays de la Loire, l'Auvergne, le Centre, le Nivernais et l'Île-de-France. Et bien dans toutes ces régions, demain matin, le ciel est très couvert avec des averses et du vent. À l'est, de l'Alsace à la vallée du Rhône, attention au brouillard demain matin. Dans le sud, de l'Occitanie à la Côte d'Azur, sur tout le pourtour méditerranéen, et bien là, La journée sera très belle puisque le soleil brille dans un ciel complètement dégagé toute la journée. Alors dans l'après-midi, le soleil du sud va remonter jusqu'en Auvergne, donc c'est quasiment sur toute la moitié sud du pays qu'il fera beau. Et au nord de la Loire, le risque d'averse persiste. Le ciel est partagé entre nuages et éclaircies et le vent se renforce. En Bretagne, attention, les pluies arrivent dans la journée avec un ciel très très couvert. Les températures, elles sont stationnaires et toujours très douces avec 8 à 16 degrés demain matin, 14 à 23 dans l'après-midi, avec 15 pour Aurillac, 16 à Limoges et Belfort, 18 à Lille, 19 à Lyon et Paris, 20 à Toulouse, 21 à Biarritz et 22 à Pau.
Merci beaucoup Anissa Dadi. Europe 1. Restez avec nous dans un instant, toutes les infos de la bourse Top à Wall Street avec Didier Amou, avec Claire Lemaître ce soir de boursier.com, suivi de l'interview Echo. Gap a annoncé cette semaine quitter l'Europe. Les marques d'habillement tombent les unes après les autres. Pourquoi ? Emmanuel Duteil posera la question à Yves Marin, spécialiste de la distribution au cabinet Barthel. A tout de suite sur Europe.
Europe Soir, le 22-22-30, Julien Pierce.
22h17 sur Europe 1. Merci d'écouter le journal de la nuit.
Et maintenant, Top à Wall Street est présenté par Audi Occasion Plus, le label qui vous garantit de profiter longtemps de votre Audi, quel que soit son âge.
Toutes les infos de la bourse avec Claire Lemaître de boursier.com. Bonsoir Claire.
Bonsoir Julien.
Wall Street a eu bien du mal à se décider pour cette dernière séance de la semaine.
Ouais, des marchés hésitants finalement. Le Dow Jones perd un petit 0,1%, 28 335 points. Le Nasdaq lui gagne 0,37%, 11 548 points. Séance marquée par la chute de plus de 10% de l'action Intel. Ses clients ont réduit leurs achats de puces électroniques au troisième trimestre avec la pandémie. Les résultats d'American Express aussi sont sanctionnés. Le titre perd près de 4%. On a tout de même des chiffres trimestriels applaudis pour Mattel, avec une forte demande des consommateurs pour les jouets, les jeux de société et bien sûr pour ses célèbres poupées Barbie hein, depuis le début de la crise sanitaire. Et Mattel flambe de près de 10% ce soir. Le pétrole repère 2,4% à New York et l'euro gagne 0,4% à 1,1858$.
À Paris, le CAC 40 se redresse au terme d'une semaine chahutée, on va dire, une nouvelle fois par la crise sanitaire.
Oui, le CAC 40 reprend 1,2% et clôture à 4909 points, mais sur la semaine, on perd 0,7%. Les inquiétudes, elles sont bien là. La star du jour, c'est Airbus, avec un signal plutôt encourageant pour le trafic aérien. L'avionneur demande à ses fournisseurs de se préparer à une hausse de la cadence l'an prochain sur les appareils de la famille A320. Airbus bondit de 5,5%.
Le marché a été soutenu également par les grandes entreprises avec des résultats financiers globalement solides.
Oui, des bons résultats pour Michelin qui gagne 3,7%. La demande de pneumatiques repart mieux que prévu après un début d'année catastrophique pour l'automobile. Résultat salué aussi pour L'Oréal qui gagne 1,2%. Déception en revanche pour Kering. Gucci, le fleuron du groupe de luxe, a continué de souffrir au troisième trimestre et Kering perd plus de 3%. Fin de semaine en hausse en Europe, Francfort gagne 0,8%, plus 1,3% pour Londres, plus 1,4% pour Bruxelles et Madrid, Milan plus 1,1%. Et à Paris, Julien, le CAC 40 gagne 1,2%, 4909 points.
Merci Claire, Claire Lemaître de boursier.com et à lundi. 22h20 sur Europe 1, on passe à l'interview Echo.
Tout de suite retrouvez l'invité Echo avec Chronopost, l'expert de vos livraisons internationales.
Emmanuel Duteil, c'est à vous.
Bonsoir Yves Marin.
Bonsoir.
Un grand merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes consultant chez Barthel, grand spécialiste de la distribution. Et c'est pour ça qu'on a voulu vous appeler ce soir sur Europe 1, puisqu'on a appris cette semaine que le géant américain de l'habillement Gap allait quitter l'Europe et notamment quitter la France. Une marque de plus de l'habillement qui n'y arrive plus en Europe. Question toute simple pour débuter. Pourquoi donc il y a tant de difficultés sur ce marché de l'habillement ?
Oui, c'est vrai que le pauvre marché de l'habillement est à la peine. Il était à la peine avant l'épidémie de Covid, à vrai dire, puisque c'est un marché qui a perdu beaucoup de sa valeur, qui a perdu 15% de sa valeur en 10 ans, parce que les gens consomment moins de vêtements, neufs en tout cas, et ils consomment plus d'occasions, et ils consomment un peu plus de culture loisirs, de santé et d'autres choses. Donc il y a eu un déport d'achat, un déport de budget depuis l'habillement, la mode, jusqu'à d'autres technologies ou d'autres sujets de grande consommation. Ça, c'était vrai avant le Covid et ça a été évidemment amplifié par le Covid puisque tous les métiers d'équipement de la personne, qu'il s'agisse de parfumerie, de soins de la personne, coiffure ou autre, et donc textile aussi, tous les métiers qui sont près de la peau sont des métiers qui ont pâtit justement des angoisses sécuritaires des clients.
Si on prend à nouveau l'exemple de Gap, soyons clairs, ça allait mal avant et finalement le Covid est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour le géant américain.
C'est ça, le Covid est une arme de sélection darwinienne qui a amplifié le désamour des consommateurs pour aller flâner dans les magasins de mode, parce que flâner avec un masque, etc., c'est quand même pas aussi rigolo pour les achats d'impulsion que flâner dans des conditions préalables. Et puis, c'est un amplificateur de concurrence, c'est-à-dire que tous les gens qui étaient au milieu du guet ou qui pâtissaient d'un déficit de positionnement ou de compréhension par le consommateur avant le Covid, et bien ces gens-là qui étaient dans le ventre mou du marché sont ceux qui sont le plus à la peine.
Oui, parce que là, vous mettez quand même le doigt sur ce qui fait mal, le ventre mou du marché. Gap n'a jamais véritablement trouvé sa place en Europe.
C'est tout le problème, effectivement, de ce marché de la mode, qui est un marché qui s'est vidé. On parle de marché en forme de losange, avec beaucoup de gens au milieu du marché. Et c'est un marché qui est passé d'une forme de losange à une forme de sablier. C'est-à-dire qu'il y a des acteurs puissants qui sont sur l'entrée de gamme, le discount, comme Primark, ou le premium, comme The Couples, Zadig et Voltaire, ou d'autres. Et c'est vrai que les gens qui étaient au milieu du guet ont eu du mal à maintenir leurs promesses commerciales et leur attractivité par rapport notamment aux géants du web, la Redoute en France, mais ASOS en Europe ou d'autres.
Il n'y a plus de place pour le milieu de gamme ou parce que H&M et Zara font tellement le travail que dans tous les cas, il n'y a pas de place à côté d'eux.
Voilà. Avant le Covid, le débat, c'était de trouver une bonne raison pour que le consommateur se lève de son sofa et aille dans un magasin. Et là, après le Covid, il faut trouver une encore meilleure raison pour qu'il se lève de son sofa, mette un masque et aille dans un point de vente. Et donc, du coup, ça devient très compliqué pour les gens dont la promesse commerciale est jugée pas suffisamment distincte des autres par les clients.
Si on suit votre logique, d'autres marques vont prendre une telle décision comme celle de Gap ou d'autres marques vont avoir des difficultés puisque on a vu que Celio, Naf, Lal ont eu de grandes difficultés en France et où étaient vendus ou rachetés ces dernières semaines.
Oui, malheureusement, le mouvement devrait s'étendre. Encore une fois, le marché du textile est un des marchés, il est totalement atypique parce qu'il est extrêmement fragmenté. Il y a beaucoup, beaucoup d'acteurs sur ce marché, malheureusement beaucoup trop. Le leader sur le marché du textile pèse moins de 4% de part de marché en chiffre d'affaires.
Et c'est Kiabi, c'est ça le plus gros vendeur de vêtements en France ?
Voilà, des gens comme Kiabi, Decathlon, ou les Guerriers Lafayette pèsent moins de 4% du chiffre d'affaires du total marché, alors que sur n'importe quel autre marché, le leader est fait tout de suite entre 15 et 30% du marché. Donc c'est un marché sur lequel il y a une longue queue, il y a beaucoup d'intervenants, et malheureusement, la phase d'écrémage des plus faibles, qui était vraie avant le Covid, a été accentuée par l'effet Covid.
Et si je vous comprends bien, Yves Marin, je rappelle que vous êtes un spécialiste du monde de la distribution, ça ne peut que continuer.
Malheureusement, on ne voit pas pourquoi effectivement la tendance infléchirait. Il y a de toute façon trop de monde sur ce marché. Le désamour des consommateurs pour les achats d'impulsion ou les achats un peu plus fun risque quand même de durer jusqu'à la fin d'année. On peut penser quand même que le contexte social en France sur le premier semestre 2021 va se durcir. C'est là qu'on va vraiment voir la réalité du chômage partiel, de la baisse du pouvoir d'achat, tout ça. Donc malheureusement, on n'est pas certain de pouvoir prédire une embellie météo pour le marché de la mode.
Surtout que, comme vous le disiez très bien au début de cette interview, il y a un autre élément qui, là, d'une certaine manière, n'a rien à voir avec les difficultés économiques ou avec les difficultés liées au Covid, c'est le marché de la seconde main qui, principalement sur ce marché de l'habillement, cartonne.
Oui, avec en figure de proue Vinted, qui est une success story incroyable, parce que ça coche plein de cases, la case de l'économie bien sûr, mais aussi la case du produit unique, du produit instagrammable, de l'économie circulaire. Donc c'est comme le bio en alimentaire, si vous voulez, la seconde main, quelle que soit sa durée, on verra le temps que ça dure, mais ça coche beaucoup de cases, pour autant qu'on le fasse de façon digitale et à destination de la génération Z. Si c'est vendre des produits d'occasion comme des produits neufs, juste un peu moins chers, ça n'a pas de sens. On n'est plus à l'heure de création des friperies, ce n'est pas le sujet. Mais si effectivement on fait des friperies 3.0 digitales, instagrammables, malines, là effectivement c'est bingo et on touche tous les sujets de réseaux sociaux et de RSE qui sont dans le cœur des jeunes consommateurs en particulier.
Eh bien, merci beaucoup Yves Marin, consultant chez Bartel, spécialiste de la distribution, d'avoir été notre invité ce soir en ligne avec nous sur Europe 1. Nous, on se retrouve lundi 22h20.
Merci Emmanuel Duteil, interview à retrouver sur notre site, bien évidemment europe1.fr.
C'était l'invité éco avec Chronopost. Chaque jour, Chronopost accompagne les PME françaises. Chronopost, l'expert de vos livraisons à l'international. Rendez-vous sur chronopost.fr.
Europe 1. Restez avec nous, dans un instant, on va découvrir ensemble les unes de la presse de demain et retourner au Roazhon Park où le Stade Rennais est pour l'heure mené sur sa pelouse par le SCO d'Angers. A tout de suite sur Europe 1.
Europe Soir, le 22-22-30.
Et voici donc à 22h27 ce que vous pourrez lire demain à la une de vos journaux. Gauche et islam, la crise des consciences, titre Libération. De la gauche, de la France insoumise au Parti socialiste, l'assassinat de Samuel Paty relance le débat sur la laïcité. Une question qui divise la gauche depuis des décennies, rappelle dans son édito Paul Quignot. Depuis les années 70, c'est l'installation de l'islam comme deuxième religion de France. Depuis surtout l'affaire des foulards de Creil en 89. Pour rappel, trois collégiennes avaient été exclues pour avoir refusé d'enlever leur voile en classe. Implosion de la gauche alors au pouvoir. Certains appellent au retour des filles et de leurs foulards à l'école. D'autres hurlent à la charia. Bref, un épisode traumatique dont tout le monde se souvient au PS encore aujourd'hui, témoigne l'ancien secrétaire général. Général Jean-Christophe Cambadélis. Voilà qui explique pourquoi, 30 ans plus tard, les attitudes étaient étonnantes dimanche à Paris lors du rassemblement en hommage à Samuel Paty. Des élus de gauche tous présents, certes, mais chacun dans leur coin, poing serré dans leur poche, écrit Paul Quignot. Une pluie de questions à la une de Ouest-France. Couvre-feu et après, l'extension de la mesure à 38 nouveaux départements sera-t-elle suffisante pour enrayer l'épidémie? Quelles sont les marges de manœuvre du gouvernement? Question et on l'imagine. Imagine éléments de réponse demain donc dans Ouest France. Allez, comme promis, on termine avec le foot, direction le Roazhon Park où le Stade Rennais est toujours mené sur sa pelouse par le SCO d'Angers, Stéphane Beignet.
Effectivement, sur le score de 2-1, 72e minute, ce sont pourtant les Rennais qui avaient ouvert le score dès la 18e minute avec une belle combinaison et puis cette frappe d'abord de T repoussée par le gardien Bernardini et Ounou était là pour reprendre et ouvrir le score. À la 27e, eh bien, il y a eu cette frappe vraiment de Boufal déviée, mais on va accorder le but donc à Boufal qui a égalisé pour la formation angevine. Et puis en deuxième mi-temps, eh bien Angers a vraiment appuyé un peu sur l'accélérateur et Fulgini à la 57e a réussi à récupérer un bon ballon en profondeur pour lober complètement le portier rennais. Et voilà comment la formation angevine est en train d'infliger pour l'instant la première défaite du Stade Rennais Football Club depuis le début de ce championnat. Rennes qui a joué il y a 3 jours en Champions League et souvent les lendemains sont difficiles. Eh bien, on a vu vraiment qu'il manquait du carburant ce soir côté Rennais pour contrer eh bien, une très bonne équipe angevine bien regroupée qui est encore en train d'attaquer là avec une belle occasion sur le côté droit. Et pour l'instant, ce sera toujours ce 2-1 pour Angers face au Stade Rennais, 73e minute dans cette partie.
Merci beaucoup Stéphane Beignet en direct du Roazhon Park à Rennes pour Europe 1. Bonsoir Sana Blanger.
Bonsoir Julien.
Vous allez bien?
Très bien et vous?
Oui, parfaitement. 39-21 pour venir témoigner donc dans votre libre antenne et ce jusqu'à 1h du matin.
Absolument et nous on se retrouve pour les actualités à 23h.
Absolument, à tout de suite.
À tout de suite.